Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constellation.
Pour aller au théâtre, on coupe les GSM. Bienvenue à La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. L'équipe est presque au complet. Nicolas, Sophie, Catherine, bonjour, hello, hello.
Bonjour, bonsoir.
Voilà, alors cette semaine, évidemment, on n'échappe pas au Kunsten Festival des Arts, Festival des Arts de la scène contemporain à Bruxelles, une espèce d'Avignon, festival international avec des spectacles dans pratiquement énorme, dans beaucoup de lieux bruxellois et dans, en version originale sous-titrée. C'est le moment de voir le théâtre qui nous vient du bout du monde. Et on ira voir justement un petit collectif mexicain qui vient à l'aile. Je laisserai le soin à Catherine de nous dévoiler le titre et tout ce qu'il y a derrière. On ira voir aussi du côté de ce qui se passe cette semaine. Ce sont des spectacles courts avec des places à prendre assez vite. Il y a à boire et à manger au Kunsten Festival des Arts, on en reparlera. Hors festival, le théâtre continue dans certains lieux. On ira faire un coup de gueule, hein, pas un coup de cœur. La tempête au Marny, probablement à éviter, sauf si vous adorez le fantastique kitsch apparemment. On ira faire aussi un tour au théâtre de poche pour un Stabat Mater assez féroce. Donc voilà. Pour l'instant, le Kunsten Festival, on est toutes parties ce week-end à l'ouverture. Catherine et Sophie, vos impressions. Sophie, premier Kunsten ?
Oui, non, pas premier Kunsten, mais en tout cas ici pour cette ouverture, bon, moi j'étais allée voir Okada, dont le titre à rallonge Giant
The Sonic Life of a Giant Tortoise, la vie sonique d'une tortue géante.
Voilà, et donc c'était pour moi la première fois de découvrir du théâtre qui venait du Japon. Et bah voilà, une belle originalité, une belle découverte.
Et dans l'ensemble, le festival a pris pour toi le week-end ? On est parti au Ritz après, hein ?
Oui, c'est ça, on était
alors, le Ritz qui est le quartier général près de la place Sainte-Catherine. Fatigant ?
Fatigant, non. Ambiance. Non, pas du tout. Ambiance, oui, ben voilà, le public du Kunst.
Catherine aime le public.
Assez hétéroclite.
Catherine analyse le public du Kunst. Oui. Catherine, alors.
Moi, je trouve que c'est un public ultra cool, ultra branché. D'ailleurs, le festival a cette année un coiffeur officiel. Si on veut avoir la mèche dans le vent, la mèche kunstienne ou les lunettes léopard. oui, c'est un public assez typé, je trouve, très, très averti, hein, puisque ce sont, voilà, c'est, les pièces du Kunst, c'est souvent avant tout une expérience. D'abord, c'est dans des langues étrangères, donc on est complètement paysé, en japonais avec Okada, en chinois avec Edith Kaldor, en espagnol avec les Mexicains. Voilà, déjà ça, c'est, ça vaut le coup, je trouve, d'être pendant 1h30 baigné dans une autre langue. Et puis.
Et ouais. C'est sous-titré, donc on rassure quand même les auditeurs, c'est sous-titré.
Pour la plupart, sauf pour Edith Kaldor qui nous a fait apprendre le chinois pendant 1h30, on n'a rien compris et on a un peu décroché.
Justement, il y a, comme je disais, il y a boire et à manger. Catherine, il y a eu des bides ce week-end. Il y a en fait le téléphone arabe qui circule. Les gens aiment, discutent, on se passe des filons, tout.
Notamment au Ritz, à mon avis, les gens doivent discuter autour d'un verre.
Oui, mais. Il y a peut-être aussi des gens qui viennent d'ailleurs au Ritz, c'est un peu l'ambiance, donc ça déborde, on est sur la route, tout le monde est sur la route dès qu'il fait un peu chaud, voilà, mais il y a aussi par exemple, il y avait l'ouverture, il y avait le fameux opéra country de Richard Maxwell, et apparemment, les échos ont été
assez mauvais. Les gens ont été très déçus, mais c'était la star annoncée, donc on attendait beaucoup de Richard Maxwell. Il valait mieux aller voir Toshiki Okada.
Voilà, justement, cette semaine, Toshiki Okada revient avec un coup double, Catherine, c'est un metteur en scène que tu affectionnes beaucoup, un japonais.
Oui, c'est un habitué du festival, donc il a fait l'ouverture avec The Sonic Life of a Giant Tortoise, fidèle à son style, donc des situations très banales. Ici, ce sont des trentenaires, quadragénaires, on ne sait pas bien, qui sont un peu désespérés par la banalité de leur vie, par la banalité de leur quotidien. Et ce sont des petites scènes comme ça, des dialogues très, très concrets, mais qui sont souvent contredits par des corps qui ont, on a l'impression qu'ils ont envie de faire exploser ces carcans de la politesse, de la pudeur typiquement japonaise. Donc juste après les catastrophes successives au Japon, où on a vu une culture japonaise très fermée, très digne à tout prix, ça donne une autre perspective sur cette culture-là, et je crois que Toshiki Okada est assez critique de cet enfermement, de ces carcans d'une société qui ne se rebelle jamais.
Et tout a l'air feutré, même dans son théâtre. Hein. C'est très doux, hein. C'est pas des cris. Hein.
C'est très doux, c'est très bizarre aussi. On comprend pas toujours ce qui se passe, ce qui se dit. Il y a une jeune femme qui parle de sa passion pour les voyages, mais qui n'arrive jamais à partir vraiment. Et puis voilà, des conversations comme ça dans le métro, sur une soirée. Et puis parfois, on les filme en gros plan, avec des bouches hurlantes, mais dont aucun cri ne sort. Des petites chorégraphies un peu bizarres, mais qui nous captivent à tout moment, je trouve.
Que ce soit dans le cinéma, apparemment au théâtre et dans la BD aussi, le Japon aime bien ressasser cet enfermement, cette espèce d'autisme par rapport au reste du monde, mm-hmm. et aussi dans la non-volonté d'exprimer les sentiments, parce qu'apparemment le poids des traditions et du respect aussi des ancêtres, de la déférence auprès des plus jeunes également, empêche les gens et les met dans un carcan très, très, très mm-hmm. dur et dont ils doivent essayer de s'extirper. Et d'ailleurs, les grandes œuvres japonaises, c'est à chaque fois des gens justement qui sortent de ce droit chemin qui leur est imposé par la société, mm-hmm. ou en tout cas qui essayent d'en sortir.
Et ce qui est intéressant dans ce théâtre, c'est vraiment un théâtre curieusement chorégraphié. C'est pas une de la danse, c'est vraiment du théâtre, mais tous ces comédiens déambulent comme ça en essayant de se donner une contenance. Ils ont des tics, des petits gestes, des fois on comprend pas vraiment. Et il y a une histoire, comme tu dis, très banale et très concrète qui rentre dans ce truc, qui met un peu mal à l'aise parfois. Est-ce que tu as eu ça, toi?
Oui, c'est une ambiance indéfinissable, je dirais. Et donc, en tout cas, moi, je conseille chaudement d'aller voir le deuxième volet, on peut dire, même si c'est un spectacle à part, mais sur le même thème de ces couples un peu empêtrés comme ça dans une vie qui les désespère un petit peu, mais dont ils ne savent pas exprimer la frustration.
Mm-hmm, donc ça, c'est le Toshiki Okada.
Ce sera « We are the undamaged others ». Alors, allez traduire ça. nous sommes les autres qui ne sont pas encore spoliés, je dirais. Mm-hmm. Voilà, ça c'est à partir de... C'était déjà hier, et encore ce soir, et demain jeudi.
À la raffinerie à Bruxelles, la raffinerie partenaire, lieu partenaire du Kunsten Festival des Arts, donc théâtre très déboussolant japonais. Autre théâtre très déboussolant, Catherine, que nous avons vu hier, c'est le fameux collectif mexicain.
Oui, Lagartijas Tiradas al Sol.
Caramba.
Avec un spectacle qui s'appelle El rumor del incendio, le son de l'incendie. Nurten se moque de mon accent, c'est pas gentil.
Non mais Catherine a une vie espagnole, il faut le savoir.
Alors moi, c'est un de mes coups de cœur de ce début de festival, parce que on y apprend beaucoup de choses. Alors attention, il faut être hyper en forme et hyper concentré, parce que pendant 1h30, on va entendre cet espagnol surtitré, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur l'histoire du Mexique dans les années 60 et 70. Donc en plein dans les mouvements de révolte étudiante, mais pas seulement, ouvrière, paysanne,
communiste,
rurale, urbaine, communiste, prolétaire, etc., etc. Et c'est un petit peu tout ça que raconte le spectacle. Donc c'est cette succession de mouvements, d'opposition, de guérillas souvent, qui ont fait un nombre incalculable de morts, de kidnappés, de prisonniers politiques, de rançons, etc. Donc c'est un cycle sans fin comme ça. Ça ne juge absolument pas aucun des partis, seulement ça interroge sur aujourd'hui, peut-être notre capacité aujourd'hui à nous rebeller, à nous organiser, à essayer de changer le monde, un monde qui apparaît de plus en plus fermé, de plus en plus cloisonné.
Surtout que le spectacle commence, moi cette phrase m'a frappée, commence par une idée très simple qui rappelle que le peuple est souverain.
Oui, ça rappelle l'article 39 apparemment de la Constitution mexicaine. Donc en fait, on va peut-être un peu décrire le spectacle. On entre dans la petite salle de l'aile sur un plateau recouvert d'une herbe synthétique avec derrière des espèces espèce de fausse feuille liane, enfin, qui essaye d'évoquer la jungle, évidemment, parce que c'est là où la guérilla se développe le plus souvent, voilà. Et puis des petites tables avec dessus des petits soldats de plomb, un train électrique à un moment donné.
Des maquettes.
Des petites maquettes. Et pendant plusieurs moments du spectacle, le propos va être illustré par ces maquettes-là. Donc on va convoquer une scène, un kidnapping dans un avion qui avait apparemment d'ailleurs atteint son but. Ou avec des tout petits bonhommes minuscules mais filmés à la caméra en gros plan, on suit une prise d'otage dans un avion. À un autre moment, on suit l'attaque d'une guérilla sur une caserne de l'armée avec des soldats de plomb.
Tout ça en théâtre miniature à l'avant-scène.
Voilà.
Incroyable.
Ils sont trois comédiens, deux hommes et une femme, qui revivent aussi. Donc la femme va surtout porter le récit d'une Mexicaine qui, au moment où elle devait se marier, commencer ses études, qui se préparait à une vie confortable et belle. Et s'est soudain engagée pour un de ces mouvements d'opposition et s'est faite arrêter, torturer, emprisonner et sa vie a basculé à partir de ce moment-là et on comprendra qu'elle s'en est jamais vraiment remise et on la suit jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en fait et à la fin c'est en fait sa fille qui parle d'elle. Donc ça c'est une histoire continue mais à côté de ça c'est plein de petites histoires de ces mouvements de guérilla jouées avec des masques, avec des moustaches, et on s'ennuie pas une seconde même si voilà c'est beaucoup 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 de textes à suivre mais finalement si on en rate un petit bout c'est pas grave, l'ensemble montre un cycle infernal d'un peuple qui a besoin de se révolter, qui a besoin de changer son état, sa vie et qui n'y arrive malheureusement pas souvent, un gouvernement aussi empêtré dans des cycles. Voilà, c'est
une espèce de cache-cache entre les guerrieros et le pouvoir et on ne sait pas qui tue comment. Ce spectacle donne aussi les plans foireux des guerrieros. Hein, ils font des rançons, ça fonctionne pas.
Oui, parfois ils avouent que le mouvement qui a un nom très ambitieux, en fait finalement ils sont deux dans le mouvement caché dans la jungle. Donc il y a un peu d'humour aussi comme ça.
Il y a d'humour, mais par exemple il y en a un à un moment donné dans les années 70, ils sont en train de choper des bourgeois, hein, des bourgeois, la grosse bourgeoisie friquée et tout. Ils demandent une rançon. Et quand ils annoncent au gars, tiens, on va vous libérer, le gars fait une crise cardiaque, quoi, à un moment donné. Et donc, un des guerriers.
Et tout ça est véridique, je pense. Hein.
Voilà, il y a tellement de noms, et comme on ne connaît pas l'histoire tout à fait, on ne sait pas vérifier et tout, mais il y a une sincérité, et surtout, c'est un jeune collectif, hein, Catherine, qui n'a pas oublié que le théâtre était très très présent, et il y a une vraie poétique de scène. Hein.
Mm-hmm. Avec derrière une énorme recherche, je pense, de reconstitution historique. C'est presque du théâtre documentaire, et en même temps, des beaux effets de mise en scène. Et donc, on vous le conseille. Ça dure à l'aile, je l'ai dit, jusque vendredi.
Voilà, pour tous les amoureux de la révolte armée ou non armée quand même, à voir dans le cadre du Kunsten Festival des Arts. Cette semaine, Catherine, on a épinglé Okada. Je voudrais juste épingler un curieux bazar qui est Mana de Beau, qui fait une performance aux Brigitines. Alors, elle, c'est simple, elle s'attaque à la civilisation, ou en tout cas à l'évolution de l'homme. Elle est partie faire un tour du monde des carnavals, des processions, voir ce qu'on a en commun et comment on répond aux fondamentaux de la vie, la mort, l'accouchement, la peur. Et elle fait une espèce de spectacle où elle interroge l'homme dans son évolution et elle démarre à l'Eden. Le spectacle s'appelle Eden Central. Je trouve que ça a l'air d'un ovni pour ce que j'ai pu en voir en extrait vidéo ou pas. On est dans une île artificielle à la chapelle des Brigitines et des hommes, un groupe de comédiens vont un peu jouer les hommes primaires. Donc ça démarre au singe et ils vont découvrir un peu notre monde actuel avec toutes ces nouvelles technologies et toute la structure et nous emmener, bon là je ne sais pas où, mais probablement nous dire que l'homme n'a pas vraiment évolué à l'heure actuelle. C'est plus ou moins dans ce sens-là qu'elle va. Donc l'Eden Central, peu de mots et beaucoup de cris apparemment. Allez voir cette curiosité. Les images sont un peu déboussolantes. Mana de Peau, à voir au Brigitine cette semaine, un ovni du Kunsten Festival. Et un maître du Kunsten Festival, c'est Jan de Kort au Kai Theater qui s'attaque à un opéra, Indian Queen de Purcell. Voilà pour les amateurs flamands de Jan de Kort au Kai Theater.
www.kfda.be pour tout le programme.
La constellation.
Kunsten. On est de retour dans la conspiration des planches.
Et voilà, dur dur, hein, le Botanique, le Kunsten Festival, mais enfin d'autres théâtres font des spectacles, mettent en scène, présentent et accueillent, notamment La Tempête, Shakespeare au Théâtre Marny. On vous en parle, mais c'est un coup de gueule, là, Sophie.
Oh, un coup de gueule, oui, bah, en tout cas, c'est pas du tout et de loin mon spectacle préféré depuis le début de l'année, depuis le début de la saison. La Tempête de Shakespeare, donc c'est quand même une histoire, je sais pas si c'est un peu... bon, voilà, c'est du Shakespeare, tout le monde connaît, mais on connaît pas forcément La Tempête. C'est une histoire assez compliquée, avec toujours plein de personnages, plein de retournements de situation. Et en deux mots, on a donc le duc Prospero et sa fille Miranda qui ont été évincés du duché et qui sont exilés sur une île déserte. Et 15 ans plus tard, une tempête se déclenche grâce à ses connaissances, aux connaissances de Prospero, à sa magie et à l'esprit Ariel. Et de cette tempête, il y a un naufrage et là, il y a plusieurs personnages qui vont se retrouver sur cette même île, dont le roi de Naples, son frère, son fils et le frère de Prospero qui l'avait évincé, etc., etc. Donc voilà, les personnages vont se balader sur l'île à la recherche de l'un qui est perdu, qu'il croit mort, et puis ils vont se retrouver mais sans savoir qui ils sont.
Bon, c'est un bordel, c'est... dans une île, un wiki.
Exactement, et ça reste classique malgré tout. C'est une tragicomédie de Shakespeare, sa dernière, donc ça parle du pouvoir, de la trahison, de l'amour, la condition humaine, et sur un fond de surnaturel, il faut le préciser. Ici, donc c'est une au Marny, c'est une mise en scène de Lucille Cochiteau et elle a fait le parti pris du fantastique en fait. Et donc on n'est pas sur une île, pas vraiment, on est sur une planète. Les villes de Naples et Milan ont été remplacées par Parthenope et Mediolanum, qui sont en fait les noms latins. Mais donc voilà, donc il y a une petite modification dans le texte de Shakespeare. Alors, ce qui est très gênant dans cette mise en scène, c'est qu'il y a énormément à côté du texte. Alors que, bon, c'est quand même Shakespeare, quoi. Donc, il y a des costumes qui sont très... trop visible.
On est voilà, dans Star Trek avec les costumes.
Alors, mais voilà.
C'est du space opéra.
Non, mais c'est vrai.
Vu la tête de Sophie, je crois que c'est ce qui t'a dérangé d'emblée dans le spectacle.
C'est ce qui m'a dérangé d'emblée parce qu'on a des costumes qui sont dans la première scène, en tout cas, des espèces de haillons futuristes à la Star Wars, Stargate, quelque chose comme ça. On a même les oreilles de Monsieur Spock. Oui. À d'autres moments, des bonnets qui représentent un peu un crâne chauve, mais bosselé avec des mèches blanches. Enfin, on se demande pourquoi.
Oui. Ouais. Bah, faut dire, c'est très difficile de faire quelque chose de futuriste dès qu'on met une planète et tout. Si c'est pas hyper merveilleux ou en performance ou un univers très art plastique, c'est difficile au théâtre de garder.
Je suis bien d'accord, mais alors dans ce cas-là, c'est peut-être pas la meilleure option de mise en scène, parce que voilà, ça reste du Shakespeare, et là, il y a vraiment un problème, c'est que...
Et je crois que ça grève en tout cas l'intérêt du texte et de l'interprétation qui n'est pas si mauvaise, apparemment.
Tout à fait. Alors l'interprétation, bon voilà, ça reste des tirades quand même assez longues, assez compliquées, et ils s'en sortent pas trop mal, mais encore une fois, bon, il y a des moments, les comédiens jouent à la limite de la coulisse, on n'est pas... C'est pas...
Est-ce que ça donne une lisibilité ce... Parce que des fois, on est tellement dérangé par des choses qu'on n'entend plus le texte.
Justement, on est totalement dérangé par tout ce qui est à côté. Donc, que ce soit les décors, la musique, les costumes, on a vraiment du mal à se concentrer, d'autant plus que c'est une histoire assez compliquée. Mm-hmm. Et voilà, on a du mal à écouter le texte. Alors, il y a un décor sonore en permanence, une petite musique en fond, très très discrète, assez jolie, mais qui est là du début à la fin, c'est omniprésent.
Cette metteuse en scène, est-ce qu'elle explique pourquoi ce parti pris fantastique dans ses notes d'intention, elle ne dit rien ?
Bah si, elle parle justement du fait de vouloir faire ça d'un point de vue fantastique, mais c'est pas pour moi, j'ai pas trouvé une seule explication valable dans cette note d'intention. Et puis enfin voilà, j'ai encore envie de c'était 2h15, d'autant plus que j'ai envie de souligner, il y a des moments où c'était pas nécessaire, on met des espèces d'énormes bâches qui vont couvrir tout le plateau et qui vont figurer le sable du désert, ou en les retournant dans l'autre sens, la forêt. Ce sont de très belles réalisations, très très beaux matériaux, mais voilà, à chaque scène, quand on change, qu'on passe de la forêt marécageuse au désert, il y a le noir, il y a les comédiens qui viennent changer la bâche qui prend tout le plateau, ça assure une musique, donc c'est, voilà, ça prend du temps, alors que le spectacle est déjà long, et voilà, à côté de ça, il y a un dispositif futuriste pour figurer Ariel, l'esprit des vents.
Et la vidéo, j'avais lu, est assez présente.
Hein. Alors, il y a aussi, mais voilà, c'est juste un écran qui prend, un écran de cinéma, quoi, qui prend vraiment tout l'espace du plateau, et notamment les scènes dans le désert, on a ce tapis au sol, et puis sur c'est l'écran, on a le ciel et le désert. Mm-hmm. Donc, c'est absolument très pas nécessaire, très illustratif, d'autant plus qu'il y a trois lieux dans cette pièce. Le troisième lieu, c'est la résidence de Prospero et Miranda, et là, on n'a rien, on a un sol nu, et on a la projection d'une espèce d'arbre absolument pas réaliste en fond d'écran. Donc,
ça peut être un parti pris, hein, très minimaliste, de faire en lumière
ou en signe. Oui, très minimaliste pour un des lieux, et les deux autres absolument réalistes, et pas du tout nécessaire.
Bon, alors, une tempête laborieuse à éviter, il faut le dire, de temps en temps, il y a des spectacles à éviter, comme le Maxwell, et bien apparemment, la tempête, on n'ira pas.
C'est jusqu'à ce vendredi, mais il y a certainement d'autres choses à voir.
Et en plus, c'est une metteuse en scène, c'est un spectacle qui va en France pour de longues dates, apparemment, si j'ai bien compris.
Au Théâtre du Soleil.
Mais par contre, je pense une chose, c'est qu'ici, on était sur la scène du Marny, et qu'il n'y a rien à faire, il y a une espèce de proximité avec le public, c'est une petite scène. Donc, tout ce qui est costume énorme, décor, lumière, bon, ça colle pas. Maintenant, sur une grande scène, en plein air, ou ce genre de choses, à la limite,
ou dans un univers industriel.
Voilà, là, ça pourrait peut-être coller. Au Marny, c'était pas un pari réussi.
Il y a des rendez-vous manqués, donc notamment avec cette tempête. Alors, autre endroit, le théâtre de poche, là, c'est plus un coup de cœur, hein, Catherine, on l'a vu ensemble, Stabat Mater.
Oui, c'est un coup de cœur qui avait encore un peu besoin d'être rodé quand on l'a vu, mais maintenant ça doit être beaucoup plus solide. Donc, le Stabat Mater, c'est un texte de l'italien Antonio Tarantino, joué, et c'est là la surprise, par, donc c'est normalement un monologue pour une femme, et c'est joué par un homme, Jean-Marie Pétignot. Donc, le résumé de cette pièce, c'est assez profane. C'est l'histoire de Marie, qui vit un quotidien assez misérable, mère célibataire et alcoolique, qui a été engrossée par Jean. Puis, ce Jean l'a abandonnée pour aller plus ou moins coucher avec toutes les autres filles du quartier.
Et se marier avec une comme il faut.
Et se marier, oui, avec une comme il faut, mais qui devient obèse de jour en jour, apparemment comme un pack de gorgonzola. Je cite l'auteur, évidemment. Et Marie va essayer d'élever ce fils, qui s'appelle Jésus, évidemment, mais qui va se faire séduire par une certaine Madeleine dans les HLM du coin, Jésus a une tête bien faite, comme elle dit. Il est intelligent, il lit beaucoup. Mais voilà, il va se faire ensorceler et embrigader dans des mouvements politiques, se faire arrêter, puis disparaître. Et donc, Marie va partir à sa recherche. Et puis voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vu le contexte, on se doute de l'issue de cette pièce. Voilà, c'est donc un monologue. Alors moi, je craignais le pire, évidemment, parce que c'est déjà un personnage très chargé, hein, cette Marie alcoolo, qui a du mal, qui s'en sort pas dans sa vie. Je me disais, jouer par un homme, ça va être terrible. Et puis finalement, à part les 5 premières minutes où on est intrigué de ce que Jean-Marie Pétignot va faire de ce personnage féminin, on oublie vite en fait que c'est un homme, même s'il joue pas du tout la féminité à outrance. À part qu'il porte évidemment une robe, des chaussures avec des tout petits talons, une perruque et de cheveux longs. Mais voilà, son cri est tellement sincère, son désespoir est tellement sincère qu'on oublie tout ça. Et je trouve qu'il s'en sort très bien, même si le soir où on l'a vu, il patine un petit peu dans la deuxième moitié. Je pense qu'il connaissait pas encore assez bien son texte, donc ça se sent un petit peu, ce qui fait qu'on décroche aussi peut-être de ce texte, qui est très particulier aussi, puisque donc le Stabat Mater, on le sait, c'est un chant normalement dédié aux souffrances de la Vierge Marie au moment du martyre de son fils, de Jésus. Et il y a ce côté litanie aussi dans le texte, donc c'est un texte un peu, pas en boucle, mais fait beaucoup de répétitions, une litanie, parce que c'est un désespoir.
Une écriture musicale.
C'est une écriture très musicale, très assez vulgaire quand même, il faut le dire. On en a l'habitude aux poches, qui ne fait pas souvent dans la dentelle. Ici, voilà, on est dans un texte qui n'hésite pas alourdir les mots, le trait. Mais voilà.
Oui, parce que ici c'est aussi profane, parce qu'elle explique une scène de prêtre. On sent vraiment une Italie profonde, je dirais Naples ou quelque chose. Le fils qui lit beaucoup de journaux, qui rentre probablement dans des partis communistes italiens. Elle qui a assisté, et alors le prêtre qui est dans le coin, qui parfois a la trique et elle explique ce genre de choses répétitives.
Et on sait le poids de l'Église en Italie, et donc on sait, c'est toute cette rage, voilà, à mon avis, qui était contenue et qui sort là tout d'un coup, à mon avis.
Oui. On se dit que Pasolini passe dans le coin, quoi.
Et d'ailleurs, dans le décor est très simple. C'est une table, voilà, rustique. Mais derrière, un autel de pacotille dédié à la Vierge Marie avec des bougies, des icônes. Donc tout ça est évidemment très fort derrière. On sent qu'en effet, c'est ce que vise la critique de Tarantino. Donc en plus, ça dure pas longtemps. Ça dure, je dirais, une heure, peut-être un tout petit peu plus.
Et c'est très sobre, hein. On tombe pas dans de la gaudriole et le gars, moi c'est la première fois que je voyais Pétigno vraiment comme ça. Il a une présence très forte, il en fait pas trop, il a une puissance dans le texte qu'il dit, même s'il s'essouffle. C'est quand même costaud, hein, comme texte, de tenir un monologue pareil. Il regarde les gens dans la salle, parfois il est ailleurs, il y a vraiment un déplacement. C'est mis en scène par Roland Mahoden. Il aurait pu faire pire, hein. Nous on craignait quand même débandade, hurlant à poil et tout, vulgaire. Non, mais là, très fort, et on rentre dans un souterrain comme ça. Ce qui est émouvant, c'est quand même cette mère qui cherche son fils dans cette justice qui disparaît, quoi.
Et c'est surtout finalement elle qui est clouée sur la croix d'une vie terrible. Qui en rajoute tout le temps, qui ne l'épargne jamais.
Et la métaphore biblique, hein, Jésus, Marie, Madeleine,
le commissaire Ponce,
voilà, ne dérange pas justement. C'est bien ficelé, un beau travail. On trouve Sabbat Mater, avoir aux poches
jusqu'au 21 mai. www.poche.be.
Voilà, alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a eu les rebelles, hein, les Mexicains rebelles. Si vous voulez avoir un manuel de guerrieros, voire boire et déboire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en demandant des rançons, ça se passe à l'aile dans le cadre du Kunsten Festival. La société feutrée crise de couple, c'est le japonais. Étrange théâtre à voir. Éviter la tempête, il fait trop chaud. Éviter la tempête de Shakespeare et aller voir Jean-Marie Pétigno dans une belle prestation, Stabat Mater, au Théâtre de Poche. On se retrouve la semaine prochaine, Catherine animera l'émission et on ira sûrement au Kunsten, Catherine.
À bientôt.
Eh bien, merci mesdemoiselles, et n'oubliez pas que le podcast de cette émission, vous la trouverez d'ici la fin de la semaine sur demandezleprogramme.be. Belle semaine à vous. Constelación.